la déconstruction des États. Ces technologies interviendront au moment où les dépenses mutualisées seront de plus en plus importantes. Pays par pays, secteur par secteur, elles réduiront progressivement le rôle de l'État et des institutions de prévoyance publique. Ainsi, après avoir augmenté, la part des dépenses collectives dans le revenu national de chaque pays diminuera massivement. La croissance des marchés dans le monde polycentrique agira alors dans le même sens que ces technologies et contribuera, elle aussi, à affaiblir massivement les États. D'abord, les grandes entreprises, appuyées sur des milliers de sociétés spécialisées, influeront sur les médias par un chantage à la publicité afin d'orienter le choix des citoyens. Puis, elles affaibliront les États. Dans un premier temps, quand les riches minorités se rendront compte qu'elles ont davantage intérêt à ce qu'un domaine soit soumis au marché plutôt qu'au vote, elles feront tout pour que ce domaine soit privatisé. Ainsi, par exemple, quand une minorité riche pensera que le système des retraites par répartition n'est plus conforme à ses intérêts, elle le fera basculer en nouant des alliances passagères dans un système de retraite par capitalisation de telle sorte que ses pensions ne dépendent plus d'une décision majoritaire qui pourrait lui être défavorable. De même pour la santé, la police, l'éducation, l'environnement. Puis le marché, par nature planétaire, transgressera les lois de la démocratie par nature locale. Les plus riches des membres de la classe créative, quelques 100 millions sur les 2 milliards de détenteurs d'actions, d'actifs mobiles et de savoirs nomades, considéreront leur séjour dans tout pays, y compris celui de leur naissance, et fût-ce un des maîtres de l'ordre polycentrique, comme un contrat individuel, excluant toute loyauté et toute solidarité avec leurs compatriotes. Ils s'expatrieront s'ils estiment ne pas en avoir pour leur argent. De même, quand des entreprises, y compris celles des nations devenues maîtresses de l'ordre polycentrique, estimeront que la fiscalité et le droit qui leur sont applicables ne sont pas les meilleurs qu'elles puissent espérer, elles déplaceront leur centre de décision hors de leur pays d'origine. Les États se feront alors concurrence par une baisse massive des impôts sur le capital et sur la classe créative, ce qui les privera progressivement de l'essentiel de leurs ressources. Exsangues et poussés aussi par l'apparition des autosurveilleurs, les États abandonneront au marché le soin de proposer la plupart des services relevant de l'éducation, de la santé, de la sécurité et même de la souveraineté. D'abord en délocalisant les services publics dans les pays à bas coût de main-d'œuvre, puis en les privatisant. Alors, les impôts baisseront, les revenus minima et les statuts protégeant les plus faibles seront balayés. La précarité se généralisera. Faute d'État, les entreprises favoriseront ainsi de plus en plus les consommateurs contre les travailleurs dont les revenus diminueront. Les technologies de l'autosurveillance organiseront et accéléreront ce processus en favorisant le consommateur contre l'usager du service public, le profit contre le salaire, en donnant toujours plus de pouvoir aux compagnies d'assurance et de distraction aux producteurs d'autosurveilleurs. Commencera alors, au plus tard vers 2050, une lente déconstruction des États, née pour certains il y a plus de 1000 ans. La classe moyenne, principal acteur de la démocratie de marché, retrouvera la précarité à laquelle elle croyait avoir échappé en se détachant de la classe ouvrière. Le contrat l'emportera de plus en plus sur la loi, les mercenaires sur les armées et sur les polices, les arbitres sur les juges. Les juristes de droit privé feront florès. Pendant un certain temps, les États des pays maîtres de l'ordre polycentrique pourront encore fixer quelques règles de leur vie sociale. La majorité politique y rejoindra la majorité économique, c'est-à-dire l'âge auquel l'enfant deviendra un consommateur autonome. Dans chaque pays, les partis politiques, en plein désarroi, chercheront, de plus en plus en vain, des domaines de compétences. Ni la gauche, ni la droite ne pourront empêcher la privatisation progressive de l'éducation, de la santé, de la sécurité, de l'assurance, ni le remplacement de ces services par des objets produits en série, ni bientôt l'avènement de l'hyper-empire. La droite en accélérera même l'avènement par des privatisations. La gauche en fera autant en donnant à la classe moyenne les moyens d'accéder plus équitablement à la marchandisation du temps et à la consommation privée. L'appropriation publique des grandes entreprises ne sera plus une solution crédible. Le mouvement social n'aura plus la force de s'opposer à la marchandisation du monde. Des gouvernements médiocres, appuyés sur de rares fonctionnaires, et des parlementaires discrédités, manipulés par des groupes de pression, continueront à donner un spectacle de moins en moins fréquenté, de moins en moins pris au sérieux. L'opinion ne s'intéressera pas beaucoup plus à leurs faits et gestes qu'elle ne s'intéresse aujourd'hui à ceux des tout derniers monarques du continent européen. Les nations ne seront plus que des oasis en compétition pour attirer des caravanes de passage. Leur train de vie sera limité par les rares ressources qu'apporteront ceux des nomades qui accepteront d'y faire halte assez longtemps pour y produire, y commercer, s'y distraire. Les pays ne seront plus habités durablement que par les sédentaires, forcés d'être là parce que trop ennemis du risque, trop fragiles, trop jeunes ou trop vieux, et par les plus faibles, pour certains venus d'ailleurs, pour y trouver un cadre de vie plus décent. Seuls se développeront les États qui auront su s'attirer la loyauté de leurs citoyens en favorisant leur créativité, leur intégration et leur mobilité sociale. Certaines nations de tradition social-démocrate et certaines minuscules entités étatiques résisteront mieux que d'autres. Ironie de l'histoire, avec l'avènement de l'hyper-empire, on assistera ainsi au retour de ces cités-États qui dominèrent les débuts de l'ordre marchand. Dans certains pays, pour empêcher cette destruction de l'identité nationale et pour faire face aux vagues d'immigration qui s'ensuivront, des dictateurs racistes, théocratiques ou laïques prendront le pouvoir. En particulier, ce qui se jouera bientôt dans des pays comme les Pays-Bas ou la Belgique, premier cœur du monde marchand, démocratie parmi les plus anciennes, sera révélateur de l'évolution qui touchera ensuite les États les plus robustes et les plus soucieux de leur liberté. On en reparlera plus loin avec la deuxième vague de l'avenir. Tandis que l'Afrique s'évertuera en vain à se construire, le reste du monde commencera à se déconstruire sous les coups de la globalisation. L'Afrique de demain ne ressemblera donc pas à l'Occident d'aujourd'hui. C'est bien plutôt l'Occident de demain qui ressemblera à l'Afrique d'aujourd'hui. Puis, à mon sens, avant même la fin du XXIe siècle, le gouvernement des États-Unis, lui aussi, perdra, le dernier sans doute au sein de ce monde polycentrique, l'essentiel des instruments de sa souveraineté. Ce sera d'abord le cas dans le monde virtuel. Tout comme l'imprimerie, on l'a vu, joua contre les pouvoirs en place, Internet jouera contre les États-Unis. Il commencera par ne pas servir les intérêts de Washington, puis en favorisant la gratuité, en démultipliant les sources d'information, en libérant les contrôles exercés sur celles-ci par les plus riches, il videra le gouvernement des États-Unis, comme celui des autres pays, de nombre de ses pouvoirs les plus importants. Beaucoup de gens revendiqueront même la citoyenneté de l'univers virtuel, abandonnant celle de tout État réel, même celle des États-Unis d'Amérique. Dans le monde réel, les entreprises d'origine américaine délocaliseront leurs centres de recherche et leurs sièges sociaux. Elles feront ainsi perdre à l'État fédéral américain l'essentiel de ses ressources. Le financement des fonctions de souveraineté, en particulier de la défense, sera de plus en plus ardu. Enfin, les citoyens ne voudront plus voir mourir leurs enfants au combat et ne souhaiteront plus être contraints de participer à la défense de leur pays. Certaines forces, en particulier militaires, tenteront alors de redonner à l'État fédéral des moyens d'agir en nationalisant des entreprises stratégiques, en fermant les frontières, en affrontant, si nécessaire, d'anciens alliés. En vain. À terme, Washington devra abandonner le contrôle des grandes décisions économiques et politiques au profit de chacun des États de l'Union et des grandes firmes. Les services administratifs seront les uns après les autres privatisés. Les prisons deviendront des entreprises privées à coût de main-d'œuvre nul. L'armée elle-même, dernier refuge de la souveraineté, d'abord constituée de mercenaires, sera ensuite privatisée comme le reste. Alors, comme autrefois l'Empire romain, l'Empire américain disparaîtra sans laisser d'autorité politique en place dans la Nouvelle Rome. Les États et les nations auront encore une place, apparence nostalgique, fantômes évanescents, bouc émissaire impuissant et facile de la marchandisation absolue du temps. La marchandisation absolue du temps. Le capitalisme ira alors à son terme. Il détruira tout ce qui n'est pas lui. Il transformera le monde en un immense marché au destin déconnecté de celui des nations et dégagé des exigences et servitudes d'un cœur. Cet hyper-empire aura, comme l'Empire américain avant lui, et comme chacune des 9 formes de l'ordre marchand, des aspects formidablement libérateurs, mais aussi des dimensions extrêmement aliénantes. Il parachèvera ce qu'a commencé le marché depuis ses origines. Faire de chaque minute de la vie une occasion de produire, d'échanger ou de consommer de la valeur marchande. Comme les vainqueurs de l'Empire romain, les marchés s'empresseront d'endosser les habits des vaincus. La société américaine inspirera pour longtemps encore le modèle que l'hyper-empire proposera au monde. L'hyper-empire poussera aussi les entreprises à entrer sur tous les marchés de la surveillance. Il incitera tout étudiant à financer ses propres études supérieures et sa formation permanente. Pour défendre la propriété privée des biens, des idées, des brevets et des personnes en l'absence d'un État, mais aussi pour protéger l'environnement, le marché fera surgir police, armée, justice privée, mercenaires et arbitres. Tout temps passé à autre chose que consommer ou accumuler des objets à consommer de manière différée sera considéré comme perdu. On en viendra à dissoudre les sièges sociaux, les usines, les ateliers, pour que les gens puissent consommer depuis chez eux tout en travaillant, en jouant, en s'informant, en apprenant, en se surveillant. L'âge limite de la retraite disparaîtra. Les transports deviendront des lieux de commerce. Les hôpitaux et les écoles laisseront la place, pour l'essentiel, à des lieux de vente et à des services après-vente d'autosurveilleurs et d'autoréparateurs qui deviendront, on le verra, les germes de la troisième vague de l'avenir. Plus l'homme sera seul, plus il consommera, plus il se surveillera et se distraira afin de meubler sa solitude. Une liberté individuelle sans cesse augmentée, du moins en apparence, par les autosurveilleurs, conduira de plus en plus chacun à se considérer comme responsable de sa seule sphère personnelle, professionnelle et privée, à n'obéir en apparence qu'à son propre caprice et en fait aux normes fixant les exigences de sa propre survie. Alors que le nomade des premières sociétés, comme le citoyen des démocraties de marché, obéissait, on l'a vu, à un ensemble de règles complexes, expression d'ambitions collectives multiples, le citoyen de l'hyper-empire ne sera plus tenu par le moindre contrat social. En situation d'ubiquité nomade, l'homme de demain percevra le monde comme une totalité à son service, dans la limite des normes imposées par les assurances à son comportement individuel. Il ne verra l'autre que comme un outil de son propre bonheur, un moyen de se procurer du plaisir ou de l'argent, voire les deux. Nul ne songera plus à se soucier d'autrui. Pourquoi partager quand il faut se battre? Pourquoi faire ensemble quand on est concurrent? Plus personne ne pensera que le bonheur d'autrui puisse lui être utile. Encore moins cherchera-t-on son bonheur dans celui de l'autre. Toute action collective semblera impensable, tout changement politique de ce fait inconcevable. La solitude commencera dès l'enfance. Personne ne pourra plus forcer des parents, biologiques ou adoptifs, à respecter et aimer leurs enfants assez longtemps pour les élever. Adultes précoces, les plus jeunes souffriront d'une solitude que ne compensera plus aucun des réseaux des sociétés antérieures. De même, de plus en plus de gens âgés, vivant davantage, et donc plus longtemps seuls que par le passé, ne connaîtront un jour presque plus personne parmi les vivants. Le monde ne sera alors qu'une juxtaposition de solitude et l'amour une juxtaposition de masturbation. Pour contrecarrer cette solitude, beaucoup choisiront de partager à tout âge, avec d'autres, provisoirement ou durablement, un toit, des biens, des avantages, des combats, des jeux, en l'absence même de toute vie sexuelle commune, en tout cas sans obligation de fidélité, en acceptant la multiplicité de leurs partenaires respectifs. Beaucoup chercheront dans ces réseaux d'infinies occasions de rencontres précaires, rémunérées ou non. Ils trouveront, dans les objets d'autosurveillance et les drogues d'autoréparation, des substituts à leur solitude. Pour gérer le temps marchand, les deux industries dominantes resteront l'assurance et la distraction. Les compagnies d'assurance et les institutions de couverture des risques des marchés financiers créeront des polices privées qui organiseront d'abord l'hypersurveillance des entreprises, des consommateurs et des travailleurs. Elles dépenseront des sommes considérables pour façonner l'opinion publique et s'attacher leurs clients. Elles exigeront d'eux l'obligation du respect des normes, puis l'achat d'autosurveilleurs. Pour les plus pauvres, la micro-assurance ne sera plus, comme dans la neuvième forme, un instrument de promotion de la démocratie, mais son substitut. De même, les industries du divertissement utiliseront les technologies de la surveillance en proposant des spectacles sans cesse adaptés aux réactions des spectateurs, dont les émotions seront en permanence captées, surveillées et intégrées dans le spectacle. La gratuité résiduelle servira de support à de nouvelles consommations. L'autosurveillance se grimera en information, en jeu ou en distraction pour ne pas paraître se réduire à la gestion d'une peur. Ce qui subsistera de la politique deviendra aussi pure mise en scène d'une représentation donnée par les politiciens, intermittents d'un spectacle délaissé. Les entreprises nomades. Dès 2020, soit bien avant que l'hyper-empire ne renverse les nations, beaucoup d'entreprises commenceront à ne plus avoir de base sédentaire. Elles seront soit des regroupements provisoires d'individus, soit des rassemblements durables de tribus. Dans les deux cas, en compétition féroce les unes contre les autres pour conquérir clients et investisseurs. Les premières, organisées sur le modèle des troupes de théâtre, rassemblent déjà, des compétences et des capitaux pour remplir une tâche déterminée. Leur durée de vie dépendra des projets de ceux qui les auront fondés, de leur capacité à inventer des produits nouveaux, de la décision de leurs financiers et de leurs clients. Comme l'espérance de vie des gens aura beaucoup augmenté, ces entreprises vivront bien moins longtemps que ceux qui y travailleront. La plupart d'entre elles disparaîtront au plus tard avec leurs créateurs. Leurs employés seront des intérimaires embauchés pour remplir une tâche donnée. Leur travail, de plus en plus contraint par les exigences de la rentabilité, du juste à temps, du sur-mesure, sera de plus en plus stressant, flexible et précaire. Ces troupes des entreprises joueront dans des théâtres, les marchés qui les accueillent, aussi longtemps qu'elles auront des spectateurs, des clients. Elles se disperseront après avoir monté une pièce, un produit, ou plusieurs. les micro-entreprises construiront l'essentiel de ces compagnies théâtrales. Beaucoup seront des multinationales minuscules, composées de quelques associés localisés en tout lieu de la planète. Le travail créatif sera, comme toujours, la principale source de richesse. Les entreprises de la seconde catégorie, beaucoup plus rares, seront durablement organisées selon le modèle des cirques ou des studios de cinéma, c'est-à-dire autour d'un nom, d'une histoire, d'un projet. Elles rassembleront plusieurs troupes, employés intérimaires sans cesse remplacés par d'autres. Elles donneront leur représentation en des lieux sans cesse changeants, là où se trouveront les marchés. Le public sera attiré par la renommée passée du cirque et viendra consommer leurs produits sans les connaître à l'avance, alors qu'il devra connaître, avec précision, ceux des théâtres avant de s'y rendre. Leur première qualité sera de savoir sélectionner les spectacles à proposer chaque saison. Leur culture, leur langue, leur localisation seront mobiles et précaires. Leurs conseils d'administration seront formés de professionnels de la gouvernance très bien rémunérés. Leurs dirigeants devront avoir le temps de penser le long terme pour chercher de nouvelles attractions. Ils devront gérer des processus de production flexibles, des équipes de commercialisation locales, des marketing spécifiques avec des équipes spécialisées dans la coordination mondiale. Ils devront tout faire pour développer la créativité de leurs collaborateurs, même de passage, et la loyauté de leurs clients, même épisodique. Ces firmes seront en fait des assembleurs, des ensembliers réunissant des modules fabriqués par des sous-traitants spécialisés, eux-mêmes troupes de théâtre en compétition impitoyable les unes avec les autres. Elles seront, pour l'essentiel, des réseaux d'associés nomades. Pour garder ceux de leurs collaborateurs auxquels elles tiendront, elles leur offriront tout ce qu'un État procurait. Du cadre de vie à la sécurité, de l'assurance à la formation. Leur principal actif sera leur marque, qu'elles protégeront et feront vivre pour donner envie aux consommateurs de leurs produits futurs. Elles financeront d'énormes programmes de communication afin de se constituer en référence dans un univers particulier. Elles incarneront des valeurs que chaque consommateur voudra à son tour incarner, des lieux où chacun souhaitera se rendre. Elles prendront en compte les valeurs environnementales et sociales et remplaceront en partie les fonctions abandonnées par les gouvernements, au moins en finançant largement les ONG. Les principaux cirques seront des entreprises industrielles travaillant dans les infrastructures, les machines-outils, les moteurs, l'alimentation, l'équipement ménager, le vêtement, le transport, le tourisme, la distribution, la beauté, la forme, la distraction, l'énergie, l'information, la finance, l'assurance, la défense, la santé, l'éducation. On en verra surgir aussi dans les domaines de l'environnement, de la sécurité privée, du mercenariat, de l'arbitrage, des surveilleurs, des infrastructures de réseau, en particulier de finances, de voirie, d'équipements urbains, d'environnement, de transports et de communication. De gigantesques marchés s'ouvriront plus que jamais pour les produits destinés aux plus pauvres. En particulier, le microcrédit deviendra plus important que le système bancaire traditionnel. Des compagnies d'assurance se porteront acquéreurs des principaux de ces cirques et en assureront la croissance. Des cirques auront l'audace et l'intelligence de changer radicalement de positionnement, comme l'ont fait Nokia ou General Electric. Les premiers cirques seront essentiellement d'origine américaine ou rattachés à des valeurs américaines, car c'est là que se trouveront les entités les mieux capables de réunir les moyens d'un projet mondial durable. On peut déjà nommer parmi eux AIG pour l'assurance, Citigroup pour la banque, Disney pour la distraction, Bechtel pour l'ingénierie, Whirlpool pour l'équipement ménager, United Health Group pour la santé, Pearson pour l'éducation, Walmart pour la distribution, Exxon pour l'énergie, Microsoft pour le logiciel, Boeing pour la défense et l'aviation, Nike pour le vêtement, Motorola pour la communication, Coca-Cola pour les boissons et l'alimentation. Peu seront européennes. Peut-être Nokia, L'Oréal, Nestlé, Danone, Mercedes, Vuitton, HSBC, Sanofi. Les cirques seront ensuite indiens, brésiliens, japonais, chinois, russes, mexicains. Puis, ces firmes se détacheront d'une base nationale et deviendront totalement nomades. Elles dureront en général beaucoup plus longtemps que les empires financiers ou les fonds d'investissement qui en seront temporairement propriétaires. Les entreprises cesseront d'être hiérarchiques pour devenir labyrinthiques, d'être uniformes pour devenir des conglomérats d'entreprises locales produisant à la demande des biens sur mesure. Certains de ces cirques iront, vont déjà pour certains, jusqu'à créer leur propre monnaie afin de fidéliser leurs fournisseurs et leurs clients. Ils le feront sous forme de points offerts en cadeau à leurs partenaires. Puis, ils organiseront la transférabilité de ces points hors de leur propre circuit. Personne, bientôt pas même le gouvernement des États-Unis, ne pourra s'y opposer. Si dans un demi-siècle ou moins, des compagnies d'assurance parviennent à contrôler les principales entreprises et à imposer leurs normes aux États, si des mercenaires privés remplacent les armées, si des monnaies d'entreprise se substituent aux principales devises, alors l'hyper-empire aura triomphé. Face aux États affaiblis, agonisants, voire volatilisés dans la négation du droit et l'impunité qu'impliquera l'hyper-empire, se développeront deux autres catégories d'entreprises, pirates et relationnelles. D'abord se renforceront celles des entreprises que les États n'auront plus les moyens d'interdire. Présentes depuis les débuts de l'ordre marchand, les entreprises pirates verront leur marché s'élargir. Certaines exerceront des activités licites sans respecter toutes les lois, en particulier fiscales. D'autres exerceront des activités criminelles, trafic de drogue, d'armes, d'êtres humains, jeux illicites, trafic d'influence, blanchiment d'argent, copie de produits de marque, et utiliseront la violence. Leur chiffre d'affaires dépassera même un jour celui de l'économie licite. Elles blanchiront leur argent, qui reviendra en partie sur le marché légal, qu'elles perturberont de plus en plus. Elles s'interpénétreront même avec des entreprises de l'économie de marché, qu'elles financeront et établiront avec elles des entreprises conjointes. Pour triompher, elles se doteront de tous les attributs des États en voie de déshérence. Réseaux de communication, instruments de collecte de ressources, armement. Elles se doteront de systèmes de microfinance, nourris par l'argent sale, pour séduire et financer les plus déshérités. Elles seront aussi, on le verra au chapitre suivant, les acteurs clés et les initiateurs de la deuxième vague de l'avenir, celle de l'hyperconflit. Ensuite, en réaction contre ces contradictions de la globalisation marchande, des entreprises à but non lucratif, relationnel, viendront exercer certaines des fonctions que les États ne sauront plus remplir. Les ONG, les fondations du Sud et du Nord en font déjà partie. En recréant de la gratuité et du bénévolat, elles aussi s'imbriqueront dans le marché qui les financera et établira avec elles des entreprises conjointes. Elles feront naître, par leur existence même, la troisième vague de l'avenir, l'hyper-démocratie, où, on le verra, des institutions démocratiques planétaires contribueront à équilibrer l'hyper-empire.